Le 17 avril 1521, dans la ville de Worms, en Allemagne, il y a eu une célèbre assemblée parlementaire des États allemands qu'on appelle la Diet de Worms. La Diet, là, c'est pas une espèce de régime amaigrissant, là. C'est un autre mot qui parle d'une assemblée politique. Et Worms, ben, c'est la ville. Donc, la Diet de Worms. Et là, le théologien et réformateur Martin Luther avait été invité à y comparaître pour expliquer pourquoi il s'opposait ouvertement à l'Église catholique romaine et pourquoi il enseignait à qui voulait l'entendre que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la grâce. Il avait un message qui dérangeait. Alors, le roi Charles V et le pape Léon X l'ont convoqué à aller là pour s'expliquer. À l'époque, l'Église catholique romaine avait beaucoup de pouvoir et elle ne tolérait pas qu'on s'oppose à elle. D'ailleurs, 2 ans plus tôt, Martin Luther avait été déclaré hérétique et il a été condamné par le pape Léon X et maintenant, il allait être banni de l'Empire à cause de ses enseignements, mais il aurait pu être condamné à mort. Donc, Martin Luther s'exposait à de grands périls en allant à la Diet de Worms. Et comme il était en route pour s'y rendre, un des amis de Luther a envoyé un messager pour dire à Luther, « Rentre-toi pas à Diet parce que sur le chemin, il y a un complot d'organiser visant à t'assassiner avant que tu arrives. » Et Martin Luther a répondu au messager, « Peux-tu envoyer la prochaine slide? » Martin Luther a répondu au messager, « Même s'il y avait autant de démons à Worms que de tuiles sur les toits des maisons, j'y entrerai quand même. » Est-ce que Martin Luther était fou ou est-ce qu'il était courageux? Ni l'un ni l'autre. Martin Luther avait simplement l'esprit tranquille parce qu'il avait une pleine confiance en Dieu qui est le véritable maître de toutes les situations. Et ce matin, on va voir comment quelqu'un d'autre, David, dans les Écritures, on voit comment David, dans le psaume 3, a réussi, tout comme Martin Luther, à faire confiance à Dieu malgré la persécution. Dans le contexte immédiat du psaume, c'est de persécution qu'il s'agit, mais on peut appliquer les vérités qui s'en dégagent à n'importe quelle épreuve qui nous frappe et par laquelle on se sent abandonné des gens et injustement traité. Je vous invite à tourner avec moi en 2 Samuel 15, parce qu'avant d'aller au psaume 3, on va regarder le contexte du psaume. Un contexte qui nous parle de la révolte d'Absalom. Absalom était le fils de David et il voulait s'emparer du trône d'Israël. Alors, il a fait une révolte, il a mis des gens de son côté et là, il a voulu faire un coup d'État et renverser son père. Tout ça est raconté dans les chapitres 15 à 18 de 2 Samuel. On ne lira pas tout ça ce matin, évidemment, là, mais on va lire quelques versets pour se mettre en contexte. 2 Samuel 15, pardon. Versets 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers leur roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, « Absalom règne à Hébron. » Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs ce matin pour nous parler. Seigneur, à travers les passages de la parole qu'on va regarder ce matin, à travers l'expérience de David et tout ce qu'on va voir, Seigneur Jésus, peut-être que tu as quelque chose à nous dire ce matin. Des fois, on manque de confiance en toi. Puisses-tu, par ces quelques versets, ces quelques passages et l'action de ton esprit en nous, nous montrer, Seigneur Jésus, qu'on peut te faire confiance en toute situation. Bénis ta parole dans nos cœurs et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Alors, les choses allaient mal pour David. David avait été surpris par la révolte de son fils et là, il doit s'enfuir rapidement. Allons maintenant au psaume 3 qui exprime ce que David a ressenti après sa première nuit en dehors de Jérusalem, alors qu'il venait de fuir devant Absalom. Psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu! C'est comme si, après avoir pris la fuite pour sauver sa vie, David s'arrête pour reprendre son souffle. Et là, on peut l'imaginer se tournant vers Jérusalem et dire au Seigneur, « Seigneur, mais c'est quoi qui vient de se passer? » Tout allait bien, là, puis tout d'un coup, là, mes amis sont devenus mes ennemis. Qui c'est qui est arrivé? Je n'ai manqué un bout, moi, là. David se sent trahi et abandonné par les siens. C'est un sentiment atroce, ça, l'abandon et la trahison. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu ça par le passé, et je peux vous dire que j'en menais pas large. On vient déstabiliser. On ne sait pas comment réagir. Il y a beaucoup de choses qui avaient des fondements qui s'effritent, qui s'écroulent, puis là, tu es comme complètement désorienté, puis tu dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou pourquoi mes amis, pourquoi mes proches, les gens qui m'ont trahi, qui m'ont blessé, qui m'ont abandonné, pourquoi ils agissent comme ça tout d'un coup? Là? Avez-vous déjà vécu une chose comme ça? C'est horrible à vivre. On ne sait pas toujours quoi faire. Dans le cas de David, son premier réflexe a été de se tourner vers Dieu. Mais même encore là, est-ce que David avait un petit doute dans son esprit? S'il y en a eu un, ça n'a pas duré longtemps face à Dieu. Parce que, au verset 3, les gens semblaient dire que Dieu aussi avait abandonné David. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu? Est-ce que Dieu nous abandonne vraiment quand les gens nous abandonnent? David était dépassé par les événements et tout ça, sans aucun doute, n'avait aucun sens pour lui. Bon, que certains de ses proches le trahissent, une chose, humainement parlant, ça arrive, mais sur quoi les gens se basaient-ils pour dire que Dieu aussi l'avait abandonné? C'est injuste, ça. C'est un sentiment qui est lourd à porter, ça. Il me semble qu'on pourrait le dire, « Hey, de quoi vous vous mêlez, vous autres? Vous vous basez sur quoi pour dire que Dieu m'a abandonné? Vous faites juge comment de la situation, là? » C'est une question qu'on peut se poser. Et en creusant un peu, encore dans la suite des chapitres de 2 Samuel. Moi, je crois que, le texte ne le dit pas explicitement, mais je crois que si les gens disaient que Dieu aussi avait abandonné David, c'était peut-être bien à cause d'une malédiction. La malédiction que Shimei avait prononcée contre David. On peut lire en 2 Samuel 16, les versets 5 à 8, et ça se passe durant la fuite de David. David était arrivé jusqu'à Bachourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme! L'Éternel fera tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Il vivait dangereusement. En tout cas, moi, je trouve Shimei pour dire ça à David et à tous les soldats qui étaient avec lui. Mais bon. Il reste que les propos de Shimei n'étaient pas fondés. Il accusait David d'être châtié par Dieu, que Dieu lui avait enlevé le trône, parce que, bon, il avait malmené la maison de Saül et tout ça, qu'il avait volé le trône en quelque part, mais tout ça n'est pas fondé parce que c'est Dieu lui-même qui a enlevé le trône à Saül pour le donner à David. Et vous savez, ce que les gens pensent de nous, là, ou ce que les gens disent de nous, là, parfois ça peut faire très mal. Ça peut faire plus mal même qu'un coup physiquement porté, là. Se faire injustement accuser d'avoir mal agi, quand c'est pas vrai, ou se faire dire qu'on vit une épreuve parce qu'on a un péché caché dans notre vie alors que c'est pas vrai, bien, c'est des choses qui font mal. Moi, j'ai vu des gens être brisés à cause de ça. Puis peut-être que vous l'avez été aussi brisé à cause de ça. Je l'ai été brisé à cause de ça pour un temps. Ça fait mal. C'est injuste. Mais quand on est dans une situation comme ça, au lieu de se faire abattre, je pense que la meilleure chose, c'est de faire comme David. C'est de se tourner vers Dieu et de lui faire confiance pour sortir de là. Il y a deux semaines, quand j'ai prêché sur la paix de Dieu, comment trouver la paix de Dieu, il y a une phrase que j'ai répétée à quelques reprises et je vais vous le dire encore ce matin parce que j'aimerais que vous la reteniez. Pourquoi devrait-on se tourner vers Dieu pour lui faire confiance, pour nous sortir d'une mauvaise passe quand les gens nous ont abandonnés ou quand tout semble perdu? Pourquoi se tourner vers Dieu? Parce que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Dites-le avec moi. Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Amen. Dieu s'occupe de nos problèmes quand on lui confie réellement. En 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit, « Dieu est fidèle. » Déjà là, ça commence bien, hein, que Dieu soit fidèle. « Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Le mot « tentation » peut être traduit par « éprouver » aussi, là. Donc, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cependant, ça peut arriver qu'il y ait véritablement un péché à la source de notre mauvaise situation. Des fois, on se met dans le trou tout seul. Si c'est le cas, il faut confesser ce péché-là. Le confesser au Seigneur, au pied du trône de la grâce, et s'en repentir, s'en détourner. C'est la première étape à faire. Et ensuite, il faut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, qui est fidèle et juste, va nous le pardonner. Dans Ésaïe, il y a un passage qui dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et Jean nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession et la repentance sont parfois le seul moyen de sortir d'une mauvaise passe, d'une mauvaise situation. Mais si quelqu'un veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné, croyez-le pas, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu châtie ses enfants, comme un père châtie son enfant. Et il le fait parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser mal agir. Il ne veut pas nous laisser grandir avec des mauvais comportements. Donc Dieu nous châtie, mais il ne nous abandonne jamais. Il a payé un prix tellement fort pour nous que nul ne nous ravira jamais de sa main. Dieu ne nous abandonne pas. Donc, si quelqu'un veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné, ou pire, si quelqu'un veut vous faire croire que vous avez perdu votre salut à cause d'un péché, ne le croyez pas, parce que c'est un horrible mensonge. Un horrible mensonge qui va troubler votre paix et votre confiance en Dieu, si vous le croyez. Et c'est même un péché de croire ça. De croire que Dieu peut nous abandonner ou nous enlever notre salut ou nous laisser perdre notre salut, vous mettez la formulation que vous voulez, là. C'est un horrible mensonge. Et c'est péché parce que c'est une attaque directe contre l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Le salut que Dieu nous a acquis par son propre sang a été payé à un prix que rien dans l'univers ne peut égaler. Et Dieu, ce qu'il a fait, il l'a fait à la perfection. Donc, quand on lui appartient pour toujours. Sauver un jour, sauver toujours. Je ne veux pas faire un message là-dessus ce matin, ce n'est pas le point, mais je le relève parce que parfois, on peut être troublé par des choses que des gens nous disent. Il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il a perdu son salut, il a délaissé. Non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Croyez pas ça, c'est un horrible mensonge. Si on est sauvé et qu'on peut le rester, ce n'est pas grâce à nous, mais grâce à Dieu qui nous garde. Et Dieu va nous garder jusqu'à la fin parce que Jésus a promis que nul ne nous ravira jamais de sa main. Et en Romains, il est écrit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Et merci Seigneur pour cette confiance-là qu'on peut avoir en toi, n'est-ce pas? Bref. Dans le contexte du psaume 3, les gens disaient « plus de salut pour lui, pour David, auprès de Dieu ». Je tiens quand même à dire que les gens ne faisaient pas ici référence au salut de l'âme de David. C'est pas ça le contexte, là. Les gens faisaient plutôt référence au fait que David avait perdu l'approbation et la bénédiction de Dieu à cause d'un péché. Et donc que la royauté lui avait été enlevée. Mais c'était faux. C'était faux. Shimei avait beau dire ça, il avait tort. Mais David était profondément affligé et impuissant devant la situation. Donc, les gens disent quelque chose, puis les gens essaient de mettre Dieu de leur bord contre moi. Ça devait être épouvantable à vivre. Affligé, impuissant devant la situation, David aurait pu se laisser abattre, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a fait la seule chose sensée à faire dans ce cas-là, c'est de cesser de regarder à ses ennemis pour se tourner vers Dieu. Quand on a une épreuve, une grande épreuve, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, là, j'ai un tempérament plutôt mélancolique, alors j'ai tendance à ruminer. À repasser tout le temps dans ma tête qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens ont dit, qu'est-ce que les gens ont fait, puis comment les choses se sont passées, puis j'entretiens, j'envenime des mauvais sentiments en dedans de moi, puis ça me détruit. Ça me détruit à la longue. Pourquoi? Parce que je regarde sans cesse à ça. Je regarde à mon épreuve, à ma tribulation. Mais ça ne change rien. Ce qui change de quoi, c'est de se tourner vers Dieu. Ça change de quoi? Pourquoi? Parce que Dieu, quoi, est toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Alors, plutôt que de regarder à nos problèmes, regardons à celui qui domine les problèmes, à celui qui est capable d'agir dans nos problèmes, à celui qui a la situation bien en main. Dans un autre psaume, David écrit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Là, ça devient intéressant aussi au verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous savez, des fois, l'épreuve qu'on vit se manifeste par la honte, la culpabilité de quelque chose qu'on a fait. Si on reste avec ça, on va s'auto-détruire. Mais la parole de Dieu, la parole qui est la vérité, cette parole que Dieu lui-même nous a laissée pour qu'on sache comment agir dans des situations, nous dit que quand on tourne vers lui, vers Jésus, les regards, on est rayonnant de joie et que le visage ne se couvre pas de honte. On n'est pas obligé de regarder à nos blessures, nos épreuves, nos difficultés et de rester dans la honte. C'est à Jésus qu'il faut regarder. Et c'est là que la joie, comme on en a parlé il y a 2 semaines, la joie du Seigneur va venir s'installer dans notre cœur, dans notre âme, et que ça va faire toute une différence. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. « Oh, je ne sais pas, moi, Dieu, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. » C'est pas parce qu'il ne réagit pas sur le moment qu'il ne nous entend pas. Dieu a un plan magnifique, merveilleux, pas toujours à nos yeux, mais lui, c'est ce qu'il fait, et ça, c'est rassurant. Quand un malheureux entend un cri, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Es-tu dans une mauvaise situation ce matin? Est-ce que depuis quelque temps, tu sembles perdre pied? Tu sembles que ta vie déraille? Tu vis des injustices? As-tu l'impression que tu as perdu l'approbation et la bénédiction de Dieu? Si c'est le cas, je t'invite à considérer ce conseil d'un philosophe qui a vécu il y a très longtemps, au 4e siècle. Un philosophe qu'on appelle Saint-Augustin. Il a dit, « Veux-tu un conseil? Si tu veux fuir, fuis vers Dieu. Fuis vers lui en te confessant à lui et non en te cachant de lui. » Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mon frère, ma sœur, si tu as quelque chose à confesser ce matin, fais-le. Je t'encourage à le faire. Fais-le. Reste pas dans la honte ou la culpabilité. Confesse ton péché à Jésus avec repentance et accepte son pardon. Accepte son pardon. La Bible dit en 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Wow! Ça, c'est de l'espoir. C'est de l'encouragement. La honte, la culpabilité, là, quand on la prend, quand on est capable de les regarder en face puis de les déposer au pied du trône de la grâce puis de dire, « Seigneur, voici ce que je t'amène. » Bien, lui, en retour, là, il va nous les pardonner. Puis il va nous donner sa joie. Il va nous restaurer. Une mauvaise situation que l'on vit dans notre vie vaut la peine qu'on se tourne vers Dieu et lui faire confiance. C'est ce que David a fait dans les versets 4 à 7. Lisons le verset 4. Mets-toi, Éternel. Vois-tu, le mets, donc. David, il a relevé le fait qu'il était dans une mauvaise situation, une mauvaise position, mais, donc il y a quelque chose qui vient à l'encontre de ça. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Wow! Au lieu de s'apitoyer sur lui-même, s'apitoyer sur son sort, David se tourne vers Dieu pour être délivré, parce qu'il avait pleinement confiance en lui. D'ailleurs, les versets qui sont à l'écran maintenant, c'est aussi David qui a écrit ça dans d'autres circonstances. Dans le psaume 37, il dit, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Wow! Et dans 1 Chronique 16, David écrit aussi, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. » David a fait confiance à Dieu et ce qui l'a aidé à faire confiance à Dieu, c'est le souvenir de l'action de Dieu dans sa propre vie, à travers ses expériences passées. David a fait confiance à Dieu dans le passé quand il a affronté Goliath ou Saül et une multitude d'autres ennemis. Et chaque fois, Dieu l'avait délivré. Et je pense que de se souvenir de ça a certainement aidé David à placer concrètement sa confiance en Dieu. Parce que vous savez, dire « faisons confiance à Dieu », c'est une belle théorie ça. Mais comment on fait ça en pratique? Pas toujours évident à mettre en pratique, là. Faire confiance à Dieu. De dire qu'on lui fait confiance dans l'épreuve, c'est de la théorie bien souvent. Mais si on veut passer de la théorie à la pratique et faire vraiment confiance à Dieu, ce qui aide beaucoup, c'est de se souvenir de comment Dieu a déjà agi dans le passé, dans notre propre vie. Chrétiens, souvenez-vous des fois où Dieu a agi pour vous. Souvenez-vous des fois où Dieu a même combattu pour vous, dans une situation ou dans une autre. Tout vous semblait perdu et là, il est arrivé un revirement de situation. Et là, vous avez dit, « Wow, merci Seigneur, juste toi qui pouvais faire ça. » Souvenez-vous des fois où Dieu vous a protégé. J'aime ça, moi, quand je parle avec des gens, avec des chrétiens, puis ils me disent, « Ah, moi, je me souviens cette fois-là, Dieu, le Seigneur était là. Si le Seigneur n'a pas mis sa main, hein, c'est bon à entendre. » Parce que Dieu est vivant. Et quand Dieu est vivant, il agit. Et quand Dieu agit, il faut s'en souvenir. Parce que ça nous donne du gaz pour continuer. Ça nous motive. Ça nous aide à aller de l'avant. Ça nous aide à placer notre confiance en Dieu. Parce qu'on est capable de dire, « Seigneur, tu as agi dans ma vie dans le passé, alors je sais que tu es vivant. Puis comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es encore capable d'agir dans ma vie. » Et ça donne confiance. C'est du concret. « OK, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne sais pas quand tu vas le faire, je ne sais même pas si tu vas faire de quoi. Mais j'ai confiance en toi parce que je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire parce que tu as déjà agi dans ma vie, tu m'as montré que tu étais là. Puis je sais aujourd'hui, je sais, Seigneur, que tu seras toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. » Cependant, je pense à Néhémie. Vous savez, le souvenir des actions passées, c'est bon pour nous, mais c'est bon pour les autres aussi. C'est bon de le raconter. Moi, j'ai beaucoup étudié le livre de Néhémie. C'est un livre qui m'inspire beaucoup pour ma propre vie personnelle. Et il y a un passage qui parle de ça, qui m'interpelle particulièrement. C'est quand Néhémie s'est adressé au peuple, au chapitre 2. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem pour reconstruire les murailles, ça faisait 141 ans que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Et à cause de ça, le peuple de Jérusalem, nous dit les premiers versets du livre, était au comble de l'opprobre, de la honte et de la désolation. 141 ans en ruine. 141 ans que les gens de Jérusalem étaient soumis aux bandes de pillards ennemis qui venaient les attaquer, aux bandes de guérillas tout autour, à l'humiliation des gens alentours, un paquet d'affaires. Certains avaient essayé de reconstruire les murailles, mais ça n'avait pas marché. Et là, Néhémie dit quelque chose. Il dit, parce que le fait que Néhémie parte d'où il était très, très loin, là. Il parte d'où il était, à Babylone, et qu'il s'en vienne à Jérusalem, c'est un voyage de entre 800 et 1000 kilomètres, là. Et c'est un voyage qui était périlleux. Et même juste le fait que Néhémie puisse quitter ses fonctions auprès du roi, c'était improbable. Mais le roi a été favorable à Néhémie. Le roi a donné toutes les ressources dont Néhémie avait besoin. Et Néhémie, beaucoup de barrières se sont aplanies devant lui pour qu'il arrive à Jérusalem. Et Néhémie a raconté tout ça au peuple. Il est écrit en Néhémie, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Néhémie a raconté aux gens l'action de Dieu dans sa propre vie pour qu'il soit rendu là et pourquoi il était là. Et les 141 ans de honte, de désespoir, de découragement ont pris le bord. Et là, le peuple a dit, « Levons-nous et bâtissons! » En 52 jours, la muraille était reconstruite. 52 jours. Néhémie n'était pas meilleur qu'un autre. Mais Néhémie, guidé par l'Esprit de Dieu, a été capable de dire aux gens, « Voici comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Et ça, ça a été un encouragement extraordinaire pour les gens de Jérusalem qui ont reconstruit. L'action de Dieu dans notre vie nous aide à faire confiance à Dieu. Chrétiens, souvenez-vous de comment Dieu a agi. Puis chérissez ces moments-là. Puis croyez que Dieu est capable encore d'agir et qu'il va le faire. On ne sait pas où, quand, comment, de quelle façon, mais Dieu va agir. Cependant, ça ne veut pas dire que Dieu va toujours empêcher l'ennemi de nous atteindre. Ça ne veut pas dire que Dieu va enlever notre épreuve comme ça, comme un coup de baguette magique, là. Physiquement, on peut être terrassé par l'ennemi, malgré tout. Et émotionnellement, on peut être très ébranlé par l'épreuve. Mais spirituellement, on devrait toujours être capable de tenir le coup, même si c'est très difficile. Parce que si on fait de Dieu notre bouclier et qu'on s'en remet à lui vraiment, on va être à l'abri du désespoir et du découragement. C'est Martin Luther qui a dit un jour, « C'est le propre d'une très grande foi de reconnaître en Dieu notre bouclier, quand les ténèbres de la mort et de l'enfer donneraient à penser qu'il va nous abandonner. De le reconnaître comme appui quand il apparaît comme ennemi, comme sauveur quand il semble nous condamner. » Wow! Quand tout semble perdu, réfugions-nous derrière le bouclier de la foi pour s'attendre à la protection divine. On en parle du bouclier de la foi. Hein? Tous les chrétiens connaissent ça, là. Mais est-ce qu'on l'expérimente de se cacher derrière le bouclier de la foi quand ça va mal? C'est-à-dire de nous attendre à la protection divine, sachant que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, nous dit la parole de Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce que David a fait quand il a dit au verset 4, « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. » Dans l'Antiquité, les rois décrivaient leur gloire en rapport avec la puissance de leur armée. Et c'est dans ce sens-là que David parle ici de gloire et de bouclier. Il se réfère à la puissance du roi des rois, pour indiquer qu'il bénéficie de la protection du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. David dit aussi, « Tu relèves ma tête. » Relever la tête, c'est une expression qui indique une restauration, c'est-à-dire de redonner à quelqu'un sa liberté et sa dignité. On a des exemples de ça dans la Bible. En Genèse 40, par exemple, « Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. » Quand Joseph était en prison. Et Joseph avait eu un songe, là il avait expliqué à des co-détenus qu'est-ce que leur rêve voulait dire. « Pharaon va relever ta tête et va te rétablir dans ta charge. » Et en 2 Rois 25, on peut lire « Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin, roi de Juda, et le tira de prison. » Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Donc, relever la tête nous parle de restauration, de liberté. Et quand David dit « Tu relèves ma tête », c'est parce que bien protégé par le bouclier de la foi, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Et que Dieu ne l'abandonnera pas. Et il sait que c'est Dieu qui lui a donné le trône d'Israël. Alors David attend patiemment que Dieu lui-même relève sa tête. Il n'a pas cherché à le faire lui-même, Il a placé sa confiance en l'Éternel, qui est son bouclier et sa gloire. Et je crois que c'est souvent ce qu'on a de mieux à faire. Vous savez, dans certaines situations, il n'y a que Dieu qui puisse véritablement changer les choses. C'est dans ce temps-là qu'on expérimente vraiment si on fait confiance à Dieu ou non. Être capable de lâcher prise et laisser Dieu agir pour relever notre tête, c'est pas quelque chose de naturel. Parce qu'on aime être au contrôle de nos affaires. On aime être, non, moi je suis capable de me sortir de là. On s'appuie sur nos propres forces. Mais il faut être capable d'aller vers Dieu et dire, c'est dans ma faiblesse, comme Paul l'a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui travaille à travers ma vie. C'est pas naturel de lâcher prise et de laisser Dieu être au contrôle de notre vie. C'est même un acte très spirituel. Et même à ça, c'est pas facile à faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crie à Dieu pour qu'il nous rende capable de le faire. Seigneur, aide-moi à lâcher prise, je suis pas capable. Donne-moi ce que j'ai besoin, Seigneur. Fais une transformation dans ma vie. Le verset 5 du psaume 3, David dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel. » Et il me répond de sa montagne sainte. Avez-vous déjà crié à pleine voix votre douleur, votre peine, votre rage, votre sentiment d'injustice? Avez-vous déjà crié à pleine voix vers Dieu? Moi, je l'ai déjà fait. Et je peux vous dire que ça fait tellement de bien. J'étais dehors, là, puis j'ai crié à mes poumonnés. Puis savez-vous quoi? Il n'y avait personne autour, même s'il y avait eu quelqu'un. Là, le bien que ça m'a fait, là, de crier à l'Éternel, mon désarroi, mon malheur, ça m'a fait un bien fou. Puis, en le faisant, là, j'ai réalisé... Je me dis, écoute, je suis en train de perdre la tête, moi, là, à faire ça, là. Bien, non, parce qu'en le faisant, j'ai réalisé que juste le fait que je crie à Dieu comme ça, c'était une expression de ma foi. Je n'aurais pas crié vers une statue de Bouddha, là, ou de Marie, ou de n'importe quel autre faux Dieu, là. J'ai crié vers l'Éternel parce que je sais qu'il est vivant. Et ça m'a fait rendre compte que des fois, j'ai l'impression que je manque de foi, mais le fait de crier à l'Éternel, de m'époumoner, à dire ma rage, ma colère, mon incompréhension, ça me montrait à moi-même que dans le fond, c'est parce que je crois en lui, sinon je ne ferais pas ça. Je suis peut-être un peu fou ces bords, mais pas tant que ça. C'était une expression de ma foi et de ma confiance envers le Seigneur. Puis savez-vous quoi? Ça m'a fortifié, parce que ça m'a rappelé que Dieu est vivant. Puis ça me rappelait que si Dieu avait déjà agi dans ma vie passée, il est capable de le faire encore. Alors, si moi, je veux crier à pleine voix à lui, là, je me fiche bien de ce que les autres peuvent penser, c'est moi qui ça regarde. Puis moi, ça me fait du bien, ça fortifie ma foi, ça me rassure, puis ça m'aide à faire confiance à Dieu dans mon épreuve. Amen. Puis, quand Dieu répond, là, parce que Dieu répond pas toujours à voix audible, là, on s'entend, mais il n'y a pas besoin de le faire. Dieu met en nous ce sentiment de paix et de confiance qui change pas nécessairement la situation, mais qui change notre attitude devant la situation. Et ça, c'est de beaucoup meilleur. Parce que quand notre attitude est changée, là, la situation n'a plus l'emprise sur nous qu'elle avait avant. C'est déjà une victoire, ça. C'est déjà une victoire, ça. Alors, la paix que ça procure... Ça nous met en confiance et on se sent protégé par le bouclier de la foi. Et c'est ça que David a vécu. Au verset 6 et 7, il dit, « Je me couche et je m'endors. » Tout bien, là, il fuit, là. Absalom se révolte contre lui, il fomente une révolte. Les amis de David, beaucoup le laissent tomber. Même le conseiller, il est du bord à Absalom. Il est obligé de fuir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Là, il crie au Seigneur, mais après avoir crié au Seigneur, il est capable de dire, malgré tout ça, là, verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assaillent de toutes parts. » Hey, c'est-tu pas extraordinaire, ça, frère et sœur, hein? Quelle expression d'une foi vivante. Wow! David avait fait de Dieu son bouclier et sa gloire. Il avait confiance que sa tête serait relevée. Et on peut s'attendre aux mêmes choses de la part de Dieu. Parce qu'on a le même Dieu, frères et sœurs. On a le même Seigneur. Le commentateur biblique américain James Montgomery Boyce a écrit ceci sur son commentaire dans les psaumes. Si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous avez en Dieu, il est temps d'y réfléchir. Si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous avez en Dieu, il est temps d'y réfléchir. Je pense que juste cette phrase-là pourrait résumer toute la prédication d'un matin. Je crois que Boyce avait raison. Et plus on va être conscient de ce qu'on a en Dieu, plus notre confiance en lui va s'affermir et va être forte. L'action de Dieu dans notre vie passée, ses promesses pour nous dans la parole, l'amour qu'il a démontré à la croix, le pardon qu'il nous a accordé tant et tant de fois, le réconfort et la consolation qu'il nous donne quand on en a besoin et quand les autres nous laissent tomber. Tout ça, ce sont des preuves que nous avons, comme dit Colossiens 2:10, que nous avons tout pleinement en lui. Et si nous avons tout pleinement en lui, ben, réfléchissons à ça. Parce que ça va faire une différence dans l'épreuve, frères et sœurs. Toute une différence. Faisons confiance à Dieu. David et ses hommes n'étaient pas tellement loin de Jérusalem à ce moment-là, ce que le psaume 3 nous relate. Alors, ils auraient pu se faire surprendre là, et attaquer en pleine nuit par les hommes d'Absalom. Et David savait ça. David, c'était un homme de guerre puis un stratège militaire expérimenté. Alors, il savait très bien qu'il était vulnérable, tout proche de Jérusalem comme ça. C'était même... Humainement parlant, c'était pas la bonne chose à faire de rester là. Mais sa confiance en Dieu était plus grande que ses ennemis. Alors David s'est couché. Il s'est endormi. Et il s'est réveillé en paix. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit lui-même. Parce que l'Éternel était son soutien. Ça me fait penser à l'apôtre Pierre, quand il était en prison, en Actes 12. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Hey, il me semble que, je sais pas, j'arrête de dormir, moi. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oh, wow! Toute une tranquillité d'esprit, ça, hein? Pierre ne savait pas ce qui arriverait le lendemain. Là. Il aurait pu être mis à mort. Là. Il aurait pu être fouetté. Il aurait pu être crucifié. Il aurait pu subir n'importe quoi. Là. Mais Pierre savait qu'il pouvait dormir tranquille, quoi qu'il arrive, parce que Dieu veillait sur lui. Il savait qu'il n'y a rien qui arriverait que Dieu ne permette. Et ça, ça devrait nous encourager à faire la même chose face à nos problèmes qui nous semblent insurmontables. Quand nos problèmes nous semblent insurmontables, c'est parce qu'on oublie ce que nous avons en Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Sauf que c'est juste que ce n'est pas toujours facile à vivre, à s'approprier, à mettre en pratique. C'est normal, là. Mais plus on va se tourner vers le Seigneur, plus nos épreuves vont pâlir et que la gloire de Dieu va resplendir, dans nos propres cœurs en tout cas. C'est ce que David a expérimenté. C'est ce que Pierre a expérimenté. C'est ce que Martin Luther a expérimenté. Et c'est ce que des millions d'hommes et de femmes de Dieu à travers le temps ont expérimenté. Et frères et sœurs, c'est ce qu'on peut expérimenter nous autres aussi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je peux savoir un amen là-dessus?
Amen.
On a souvent tendance, vous savez, à agir et à essayer de se sortir de là, puis après ça, quand ça ne marche pas, on prie. On agit avant de prier, alors qu'on devrait plutôt prier avant d'agir. Ça aussi, ça aide. Parce que C'est comme ça qu'on va trouver la paix de Dieu et que Dieu va nous amener à lui faire confiance. Quand on prie, qu'on se blottit derrière le bouclier de la foi et qu'on fait de Dieu notre gloire, notre bouclier et qu'on s'attend à lui pour qu'il relève notre tête, là. Bien, ça fait toute la différence entre l'espoir et le désespoir. Pour revenir à David, il s'est couché et il s'est endormi. Mais comme on a vu, il s'est réveillé aussi. Il ne s'est pas réveillé mort. Les hommes d'Absalom ne sont pas arrivés. Dieu l'avait protégé. Il était en paix. Il était confiant parce que la sécurité de la nuit précédente était pour lui un gage de sa protection future. Juste avec la nuit qui venait de passer, David a réalisé que Dieu avait encore agi, alors ça l'a fortifié. L'action de Dieu dans la nuit précédente l'avait encore fortifié à aller plus loin. Encore une fois, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Les victoires et les délivrances que le Seigneur nous a accordées dans le passé devraient nous donner confiance en Dieu pour l'avenir. Lisons les versets 8 et 9 du psaume 3. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. L'expression « lève-toi » ici, c'est un cri de guerre. Et dans le contexte, ça va très bien. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, cette expression-là, « lève-toi », est utilisée pour inviter Dieu à attaquer l'ennemi. On voit ça dans le livre des Nombres et dans plusieurs psaumes. Et David fait encore appel à la délivrance de Dieu ici quand il dit « Lève-toi, combat pour moi, Seigneur! » Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé en amenant Absalom à suivre de mauvais conseils. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 16 à 18, si vous voulez continuer à lire l'histoire. Donc, David et ses troupes ont obtenu une grande victoire et 20 000 de leurs ennemis ont été tués, dont Absalom. Alors Shimei s'était royalement trompé. Dieu n'avait pas abandonné David. Et David avait fait la bonne chose. Plutôt que de croire les mensonges du monde, plutôt que de regarder à ses épreuves, à ses ennemis, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a été rayonnant de joie. Et son visage ne s'est pas couvert de honte. Lève-toi, ô Éternel. La deuxième partie du verset 8 nous dit « Car tu frappes à la joue tes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Il me semble que c'est cru, hein? Comme on ne s'attend pas à ça nécessairement. Ça, c'est comme... Mais frapper quelqu'un à la joue, c'est une marque d'humiliation. On voit ça en 1 Roi 22, Ésaïe 50, Lamentation 3, Job 16. Il y a des références, il y a des occurrences de ça dans la parole de Dieu. Donc, frapper quelqu'un à la joue, c'est une marque d'humiliation. Et briser les dents des méchants, ben, c'est parce qu'ils voulaient se partir d'une association de dentistes. Non, c'est pas ça. Briser les dents des méchants, ça veut dire rendre l'ennemi sans force et l'empêcher de faire du mal. On voit ça en Job 4, le psaume 7, Lamentation 3, etc. Il y a des occurrences de ça. Donc, David a fait confiance que Dieu lui assurerait la victoire et que l'ennemi serait brisé et rendu sans force. Alors, il s'exclame au verset 9, « Le salut, c'est-à-dire le secours, la délivrance, est auprès de l'Éternel. » Si le secours, la délivrance, le salut est auprès de l'Éternel, pourquoi regarder ailleurs? Pourquoi regarder ailleurs? C'est là que ça se passe. La délivrance de Dieu, c'est une grande bénédiction pour tous ceux qui se confient en lui et qui lui font confiance. Alors, peu importe l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés, peu importe l'épreuve à laquelle peut-être toi t'es confronté ce matin, au lieu de sombrer dans la peur et le désespoir, réfugie-toi avec confiance sous la protection de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va enlever ton épreuve. Mais ça veut dire que Dieu va te donner tout ce qu'il faut pour la supporter, avec la paix que tu as besoin pour le faire. Et ça, c'est puissant. En conclusion, David aurait pu se décourager et se laisser abattre par la révolte de son fils Absalom. Et Martin Luther aurait pu suivre le conseil du messager qui est allé devant lui et fuir plutôt que de se rendre à Worms. Mais l'un comme l'autre ont remis leur sort dans les mains de Dieu. Et le psaume 37 nous invite à le faire aussi. « Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Wow! Faire confiance à Dieu dans l'épreuve, ça change tout. Ça change tout. Mais plus important encore, remettons-lui notre sort éternel si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi vous poser la question. Avez-vous remis votre sort éternel dans les mains de Dieu?
Oui.
Si vous l'avez fait, amen, merci Seigneur, c'est la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse et la plus sage décision que vous avez faite de toute votre vie. Mais si vous ne l'avez pas fait, dites-moi-le pas, mais réfléchissez. En quoi mettez-vous votre confiance pour l'éternité? Dans une religion d'hommes? Dans vos propres croyances, vos propres moyens, vos propres accomplissements? Parce que tout ça, ça ne vaut rien devant Dieu. En quoi mettez-vous votre confiance pour affronter votre pire ennemi? Savez-vous c'est quoi le pire ennemi? C'est la mort. On a beau être le plus encouragé, le plus positif possible dans la vie, le plus optimiste possible. La vie, là, personne ne va s'en sortir vivant. Sauf si le Seigneur revient enlever son Église. Mais sinon, personne ne va s'en sortir vivant et on va tous avoir à affronter l'éternité. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a écrit parce qu'il parlait, il réprimandait les enfants d'Israël et dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Mais on peut s'appliquer ça à nous aussi. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu quand je vais traverser de l'autre côté? En quoi je mets ma confiance? En quoi je mets ma confiance? La parole de Dieu dit « Recommande ton sort à l'Éternel. » Pas à n'importe qui ou à n'importe quoi. À l'Éternel qui sera toujours plus grand que le plus grand de tes problèmes. Et à Jésus-Christ qui lui-même a accompli le salut de ton âme. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est de lui faire confiance. De t'abandonner à lui. De le recevoir comme sauveur et Seigneur. En quoi places-tu ta confiance pour le jour ou dans l'éternité? Tu seras face à ton Créateur. C'est important, tu peux prendre la décision ce matin et avoir confiance par la suite que peu importe ce qui va arriver, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que Christ a payé un prix incroyable pour toi. Je dis incroyable, c'est figuré parce qu'il faut le croire. Mais a payé un prix extraordinaire. Le prix du Fils de Dieu. Le seul moyen pour nous d'être avec Dieu dans l'éternité, c'est de passer par Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si tu ne l'as pas fait, fais-le ce matin. Viens à Jésus, au pied de la croix. Et voilà sur la croix. Je me souviens, quand je me suis converti, j'étais à genoux à côté de mon lit et je priais. Et là, j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu as fait ça pour moi? Pourquoi tu es mort sur la croix? Pourquoi tu as subi tout ça à ma place et je ne le mérite pas? » Et Seigneur, j'ai vu dans ma tête cette image où le Seigneur était sur la croix comme ça, puis il a levé la tête, puis il m'a dit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas là maintenant, mais crois comme un enfant. Crois seulement comme un enfant que ce que je fais, c'est parce que je t'aime gros comme ça. » Est-ce que tu crois ça ce matin? Jésus t'aime à la folie, au point qu'il a donné sa vie pour toi. Fais-lui confiance pour le salut de ton âme. Viens à lui ce matin. Reçois-le comme sauveur. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi, regrette amèrement tous tes péchés et confesse-les à Jésus et reçois-le comme Seigneur. Dis-lui dans tes propres mots, « Seigneur, sauve-moi. » Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume magnifique qu'on a vu ce matin, qu'on a juste même effleuré parce qu'on aurait pu le creuser encore et encore et encore parce que ta parole est infinie. Mais ce qu'on a pu en tirer ce matin, ça peut faire toute la différence dans notre vie. Et Seigneur, je te prie vraiment que dans ma propre vie, quand je serai confronté à l'épreuve, quand je serai confronté au désespoir, Seigneur, de me rappeler que j'ai moi-même prêché ça, de me souvenir que tu seras toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. Et je te prie, Seigneur, pour quiconque m'entend, entend ces paroles que je prononce de ta part, Seigneur, qu'il puisse mettre ça aussi en application dans sa propre vie. Et je te prie surtout, Seigneur, ce matin, que si quelqu'un ici ce matin ne t'a pas reçu comme sauveur et Seigneur, que tu l'amènes par ton esprit à te faire confiance, à s'abandonner à toi et à te recevoir comme sauveur. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui sauves. Le salut est en toi. Merci Seigneur Jésus parce que quand un malheureux crie, tu entends. Oh Seigneur, on veut te dire merci parce que quand on crie, lève-toi, tu combats pour nous. Et merci pour ce bouclier de la foi derrière lequel on peut se réfugier et être à l'abri des traits enflammés de l'ennemi. Merci tellement de qui tu es, Seigneur Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais que l'on te voit encore plus grand et plus merveilleux que jamais. Bénis ta parole dans nos cœurs et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.